Nous arrivons au rapport de Madame Hackney-Robin sur une évaluation de l'expérimentation du télétravail. Expérimentation, il y a engagé déjà suffisamment en amont pour pouvoir commencer à évaluer.
Merci, Monsieur le Président. Donc, je ferai l'effort d'être synthétique. Si je puis me permettre, je crois que l'on a pris un tournant. Et cette session, l'ordre du jour de cette session, finalement, le montre bien. On a parlé de quoi ? De collège passif, d'un schéma d'énergie ambitieux de 22 millions d'euros, d'un avenir soutenable pour le département avec Ille-et-Vilaine 2035. On a parlé d'alimentation responsable, de circuits courts pour tous les collégiens. On présentera tout à l'heure notre vœu sur le pacte finance-climat. On le voit, notre département se montre innovant, exemplaire, au rendez-vous des politiques écologiques attendues par nos concitoyens. Nous sommes aussi résolument engagés dans les transitions, en particulier énergétiques, climatiques et numériques. Alors vous vous demandez pourquoi peut-être j'aborde tout cela, parce qu'évidemment le télétravail est aussi un élément important pour engager cette transition. C'est une bonne illustration de ce qu'on pourrait considérer comme un sujet mineur, finalement, mais qui ne l'est peut-être pas. Parce que demain, si nous imaginons généraliser le télétravail, nous contribuerons à amorcer un vrai changement vertueux. Et je peux vous garantir que ce sont des dizaines de tonnes de CO2 que nous éviterons d'émettre dans l'atmosphère chaque année. On dit souvent que 2 jours de télétravail par semaine, généralisés dans les entreprises et les administrations, ce serait un levier formidable pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. L'accélération du réchauffement climatique nous semble aujourd'hui une évidence. Il apparaît alors aussi évident d'agir à notre échelle, à notre niveau, pour plus de sobriété, moins de consommation d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre et limiter la hausse des températures, évidemment, ceci à notre échelle. Cette expérimentation que nous avons engagée sur le télétravail au département d'Ille-et-Vilaine vise donc à répondre en premier lieu à l'enjeu climatique. Mais pas seulement, c'est aussi finalement une forme de révolution culturelle dans les modes de travail que nous proposons et que nous avons souhaité expérimenter à partir de 4 axes. D'une part, en ayant en tête le développement durable, l'agenda 21 de la collectivité, son plan de déplacement des agents, l'aménagement du territoire, et on en a parlé également dans le cadre d'Ille-et-Vilaine 2035, l'égalité femmes-hommes, le management, évidemment, l'organisation du travail, ainsi que la modernisation des outils de travail, et notamment la numérisation et la mobilité des outils de travail. Alors aujourd'hui, le rapport qui vous est présenté n'est pas encore un rapport décisionnel, c'est plutôt un rapport d'information. Il ne s'agit pas de vous proposer encore d'inscrire le télétravail comme un mode d'organisation de la collectivité, mais simplement de vous présenter l'expérimentation que nous avons menée et surtout l'évaluation qui en a été faite chemin faisant, in itinere. Donc ce télétravail, il a été testé depuis mai 2018 sur 278 agents qui se sont portés volontaires. L'évaluation a eu lieu sur 6 mois, de mai à novembre 2018. 2 modalités de télétravail ont pu être testées, une modalité de télétravail régulière, 1 jour par semaine, et une modalité de télétravail ponctuelle au travers de 10 jours de télétravail possibles par an. Alors, qu'est-ce que nous dit cette évaluation qui est très, très complète? Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, évidemment, à lire attentivement les conclusions et l'ensemble des analyses qui ont été produites sur un rapport d'évaluation qui fait 100 pages. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, globalement, une expérimentation qui apporte une grande satisfaction à l'ensemble des agents départementaux, puisque la note globale retenue pour cette expérimentation est de 9 sur 10. Donc on va dire que de ce point de vue, on est plutôt sur un défi qui est remporté et qui est très très satisfaisant à tous les niveaux de la collectivité, que ce soit pour les agents eux-mêmes, l'encadrement et pour l'ensemble des collectifs de travail. Du point de vue technique, on va parler d'une quasi-satisfaction, puisqu'à ce jour, on n'a pas pu attribuer des outils mobiles à l'ensemble des télétravailleurs. Il a fallu qu'on limite, parce qu'on avait aussi un budget d'investissement limité, qui, cela vous est précisé, a été limité à 61 000 euros dans cette phase de test, donc ce qui est assez peu en réalité. Donc malheureusement, certains agents télétravailleurs ont dû utiliser leurs propres outils, et probablement que ça a été un élément d'insatisfaction, alors limitée, mais qui n'a pas permis d'atteindre le bon niveau soit de débit, soit de qualité technique que nous attendions aussi dans un premier temps sur cette démarche. Alors on a vu cela en comité départemental d'évaluation et on a abordé aussi la question de la sécurisation, parce que évidemment travailler à distance, ça pose des questions de sécurité informatique, de sécurité numérique. Donc ça a été pris en charge évidemment par la direction des services numériques de la collectivité, mais on voit que sans doute il faut aussi qu'on améliore toutes nos précautions à ce niveau. Sur le plan du développement durable, alors je vous disais que télétravailler, ça nous rapporterait ou ça nous permettrait d'économiser sans doute des tonnes de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. S'agissant de cette expérimentation, c'est 18 tonnes quand même de gaz à effet de serre qui n'ont pas été émis dans l'atmosphère. Donc sur la base d'une évaluation qui n'a duré que 6 mois, et sur la base d'un potentiel de télétravailleurs qui était uniquement de 278 agents, sachant que le potentiel global dans la collectivité est à 1200 agents. Donc je vous laisse faire le calcul, mais vous verrez que nous avons des marges de progrès énorme à ce niveau. Sur l'objectif d'égalité femmes-hommes, donc on a souhaité observer les choses de cette façon. On a été attentif aussi à ce que le nombre d'hommes et de femmes retenus soit conforme à la proportion d'hommes et de femmes travaillant dans la collectivité, c'est-à-dire qu'on est sur un ratio à peu près de 70-30. Ce qu'on observe, c'est peut-être plus de satisfaction pour les hommes à télétravailler, parce que sans doute les femmes ont fait l'objet de plus de remarques, soit très positives, soit très négatives, quant à cette innovation et cette nouvelle manière de vivre sa vie professionnelle. Donc ça vient, vous faites là aussi le calcul, il y a 70% de femmes dans la collectivité, donc vous imaginez aussi que certaines femmes ont pu recevoir des remarques désobligeantes d'autres femmes. Voilà, la sororité n'est pas forcément toujours une valeur partagée, on le sait bien, dans nos organisations et à tous les niveaux. Une meilleure qualité de vie au travail, donc derrière aussi le télétravail, nous avions cette ambition de voir quelles étaient les conséquences sur la qualité de vie au travail. Donc ce qu'on constate, c'est plutôt une bonne efficacité aussi des agents qui vont se trouver dans des environnements favorisant la concentration, plus calme, avec moins d'interactions. Et quand il s'agit de faire des travaux concentrés, de rédaction, d'analyse, de synthèse, de rapport, on voit que le cadre du télétravail aussi est très très adapté. Sur les collectifs de travail, il y avait une appréhension de la direction, évidemment, de la collectivité, pour savoir comment ça se passerait, comment fonctionneraient les équipes, comment fonctionnerait aussi le reporting vis-à-vis de la hiérarchie. Donc là aussi, on a plutôt des éléments positifs et plutôt des éléments de réassurance. C'est-à-dire que pour les encadrants, notamment, l'expérimentation a été positive et ils ont pu constater que malgré le télétravail, finalement, et malgré l'éloignement, le reporting et le travail en commun étaient possibles. Alors, le niveau de fatigue des agents, ça, c'est très intéressant, puisque là, on peut voir que économiser en moyenne une heure de déplacement par jour, évidemment, ça vous crée moins de fatigabilité. Et Monsieur le Président va être très satisfait quand je vais lui dire qu'un agent télétravailleur régulier pendant une année gagnera 35 heures de temps de vie. Donc, si jamais nous mettons en place cette initiative, eh bien, finalement, les agents auxquels nous avons demandé de travailler plus en passant aux 1607 heures, soit l'équivalent d'une semaine quasiment travaillée en plus, eh bien, si nous mettons en place le télétravail, quelque part, ils retrouveront ce temps grâce à tous les déplacements qu'ils économiseront, du temps de vie retrouvé, soit pour la famille, soit pour les activités associatives, soit pour soi-même, pour son sommeil, enfin pour tout un tas de motifs personnels. Sur le bien-être, donc là aussi, on a plutôt un niveau de satisfaction important, puisque en moyenne, 80% des télétravailleurs ponctuels, notamment, ont trouvé des effets bénéfiques à la mise en œuvre de ce télétravail. Alors, un risque néanmoins, c'est le télétravail en apnée, où on a pu avoir des situations d'agents qui commençaient le matin et qui terminaient le soir, mais sans avoir nécessairement pris de pause, en se mettant la pression sur le rendu, justement, par rapport à la journée suivante. Donc voilà, le télétravail en apnée, ça a pu aussi être observé. Sur les manières de travailler, donc là aussi, ça a introduit forcément une organisation différente, parce que télétravailler, ça suppose de ne pas avoir forcément tous ces documents, tous ces outils à disposition. Donc s'il n'y a pas une organisation, s'il n'y a pas une anticipation, certains agents ont pu voir aussi que ça pouvait amener à certaines difficultés. Alors, sur les préconisations d'amélioration, donc ce que l'on propose par rapport à cette démarche expérimentale d'évaluation, c'est d'une part, alors on a 7 préconisations, d'une part clarifier les règles du télétravail sur les jours, règles de pause, sur le travail itinérant, travail distant, sur aussi les continuités de service dans la collectivité. La deuxième préconisation, c'est sur d'éventuelles sollicitations pour assouplir les règles et notamment ouvrir le télétravail à plus de collaborateurs et collaboratrices dans la collectivité. Sur les bonnes pratiques, c'est aussi de porter à la connaissance des agents des règles élémentaires de recommandation sur la santé au travail, l'ergonomie des postes, et l'importance des temps de pause. C'est de porter à la connaissance des agents aussi des aspects pratiques sur la continuité de service, sur l'anticipation de la journée télétravaillée, sur aussi les modalités techniques, donc d'accès aux outils de travail à distance, de connexion VPN, etc. Sur les encadrants, c'est de mettre en place aussi des outils de suivi, d'échange et des systèmes, pourquoi pas, de visio qui pourraient être augmentés ou renforcés dans la collectivité. Sur le pilotage du dispositif, donc là encore, c'est de peut-être mieux regarder aussi les effets attendus en termes de développement durable qu'on n'avait pas nécessairement précisé. On se disait qu'il y avait quelque chose forcément autour d'un impact à ce niveau, mais on ne s'était pas donné d'objectif quantitatif. C'est aussi de travailler la logique de coût de déploiement. Voilà combien coûterait le déploiement d'un télétravail un peu plus généralisé dans la collectivité, avec toutes les dotations matérielles qu'il y a derrière cette démarche. Et enfin, c'est donc d'accompagner la mise en œuvre du dispositif, donc de communiquer évidemment sur les effets du télétravail, de rassurer aussi à ce niveau, de former, d'informer, de le rendre plus lisible. Et alors, un axe qui peut rejoindre aussi les réflexions qu'on a eues sur Ille-et-Vilaine 2035, c'est aussi en quoi le télétravail peut être un facteur d'aménagement du territoire, parce que finalement, un agent télétravailleur, eh bien, il a peut-être moins l'obligation d'habiter à côté de son lieu de travail. Il peut faire un peu plus de distance, parce que les distances seront moins lourdes en temps, moins lourdes en argent, plus économiques aussi en carburant. Et on peut avoir derrière cette généralisation du télétravail un nouvel outil aussi, finalement, d'aménagement du territoire, en développant les tiers-lieux, en facilitant les connexions aussi et l'accès aux connexions informatiques rapides dans l'ensemble des territoires ou l'ensemble des pôles territoriaux territoriaux de ce département d'Ille-et-Vilaine. Donc voilà pour la restitution de cette évaluation sur le télétravail. Je crois qu'elle reprend bien cette expérimentation, aussi notre objectif d'exemplarité au niveau des ressources humaines, un objectif qui nous, quelque part, qui nous guide depuis le début de ce mandat. Donc ça a été un régime indemnitaire égalitaire mis en place dans la collectivité. C'est aussi une démarche de lutte contre les violences sexuelles et sexistes que l'on porte. C'est le développement des mobilités douces. C'est aussi l'évolution du temps de travail. Donc je crois que cette initiative télétravail, c'est à nouveau une illustration concrète de ce que l'on veut faire pour adapter aussi nos ressources, nos manières de faire à la nouvelle réalité des territoires et aux nouveaux enjeux qui se présentent à nous, notamment en termes écologiques et climatiques. Donc je disais tout à l'heure que on pouvait économiser derrière cette démarche aussi des tonnes de CO2. Donc j'ai fait le calcul sur une généralisation du dispositif. Ça pourrait nous permettre d'atteindre 644 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en moins par an si le dispositif était généralisé. Alors non pas à la totalité du personnel départemental, parce que tous les postes ne permettent pas la mise en œuvre du télétravail, mais au moins à un tiers d'entre eux qui éventuellement pourraient y accéder. Donc c'est le temps de vie gagné, 35 heures par an, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est des gains de pouvoir d'achat aussi, parce que c'est de l'énergie et du carburant économisé. Et pour un télétravailleur, eh bien, qu'il soit régulier ou ponctuel, ça peut aller de 50 à 200 euros en moyenne par an de gains de pouvoir d'achat sur le carburant économisé. Et puis enfin, c'est aussi un outil d'aménagement du territoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque ça libère le télétravailleur de la nécessité d'habiter à proximité immédiate de son lieu de travail. Donc je crois que cette démarche, elle est tout à fait cohérente avec notre souhait d'un département éco-citoyen, avec des territoires qui se développent en réseau, mais sur des logiques aussi soutenables sur le plan écologique et social. Et donc, nous verrons à la session de juin prochain quelles perspectives de pérennisation nous pouvons apporter à cette première démarche d'expérimentation et d'évaluation. Merci de votre écoute.
Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Donc, il s'agit non pas d'une approbation, mais d'une restitution après un premier temps. Monsieur Mailleux, Monsieur Coulombelle, Madame Le Callennec.
Oui, Monsieur le Président. Notre collègue Monsieur Coulombelle a évoqué en début de session l'étymologie de politique. Moi, je veux simplement rappeler que économie et écologie ont la même étymologie. Voilà. Et la restitution qui a été faite hier, donc c'est relativement frais, amène effectivement un certain nombre de constats ou de remarques qu'on peut partager, parce que hier ça a été un temps relativement court et puis le contenu était important. Et je voudrais faire mon analyse autour d'un petit principe. D'abord peut-être le nom. Est-ce qu'il faut rester sur télétravail alors qu'on comprend bien qu'il s'agit autant de travail à domicile que de travail délocalisé ou relocalisé, et pas simplement du télétravail avec un outil numérique ou informatique. Donc je dis ma réflexion, je vais la faire autour de quatre fois la lettre R. Le premier R, je vais l'affecter au mot résultat. Quel est le résultat qu'attend l'employeur, le département, la collectivité? Sachant que dans l'organisation du travail, il y a toujours ce lien de subordination, et que si on fait évoluer le mode d'organisation du travail, ce lien doit subsister, et par nature, on parlait d'innovation, on parlait de recherche et développement, le travail, la nature du travail évolue, les conditions de travail évoluent, et n'oublions pas que réaliser un travail, ça se fait avec une vocation qui est naturellement collective, et que toute individualisation excessive des comportements peut aussi avoir des conséquences qui ne sont pas nécessairement positives, y compris, et vous l'avez évoqué Madame Acmi-Robin, pour celles et ceux qui ne pourrait jamais rentrer dans le cadre du télétravail ou du travail délocalisé ou relocalisé, surtout quand dans les cinq enjeux, on voit l'enjeu de qualité de vie avec deux objectifs qui étaient assignés, à savoir le maintien de l'emploi, Donc il ne faudrait pas laisser croire que je peux faire du télétravail, j'ai un emploi qui pourrait être plus facilement maintenu que si ça n'était pas le cas. Et puis j'ai vu que parmi les enjeux, les objectifs, pardon, il y avait diminuer l'absentéisme. J'ai du mal à comprendre en quoi changer les modes d'organisation du travail peut faire que je me mette à travailler alors que j'étais absent et que je ne le pouvais pas. Ça veut dire que c'était peut-être le lieu de travail qui était le générateur de l'absence, ou alors je n'ai pas bien compris quel pouvait être l'objectif. Le deuxième R, c'est celui des ressources. Et ces ressources, vous l'avez également évoqué, dès l'instant où je travaille ailleurs que dans mon environnement habituel, dispose-je d'un ordinateur, d'une liaison sécurisée, qui consomme l'énergie, qui consomme le papier, qui consomme l'encre, enfin bref, un certain nombre de mobilisations et de consommation de ressources peuvent être déportées. Il faudra effectivement que ces choses soient clairement explicitées. Troisième R que je voulais aborder dans cette analyse, c'est le rythme. Effectivement, on a parlé de télétravailleurs occasionnels ou permanents, enfin par rapport à l'expérimentation. Le rythme, n'oublions pas que c'est aussi la façon d'éviter de ne plus croiser des collègues qui eux-mêmes seraient absents quand moi je suis présent et réciproquement et on ne se voit jamais. C'est le rapport avec les collègues et peut-être que le fait qu'une personne soit absente à un moment où je voulais partager de l'information avec elle sur la nature de mon activité, ça peut être aussi quelque chose qui gêne la qualité des informations et du partage, du travail, du rôle social du travail. Je ne parle pas du manager parce que je le garde pour le quatrième et dernier R, celui des responsables. Qui est responsable de cette évolution de l'organisation? Alors on voit bien qu'il y a l'objectif du manager, la confiance, mais aussi l'efficacité et la productivité. Alors, est-ce que ça peut se mesurer? Et est-ce que c'est compatible avec la lutte contre les risques psychosociaux? Et vous avez évoqué, Madame Acmirobin, les télétravailleurs en apnée. Donc, nous, sur la côte, on imagine ce que ça peut être, mais ça ne doit pas être ce qu'on imaginait. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on organise? Comment est-ce que le manager s'assure que les choses se passent bien? Et toujours lors d'un échange en conseil d'administration de la FN-Scott, il y avait une sociologue qui nous avait indiqué que le principe « loin des yeux, loin du cœur » fonctionnait aussi pour le travail. Dans un premier temps, je peux avoir des inquiétudes pour me dire comment je m'organise, est-ce que je suis suffisamment présent, donc je me mets en apnée. Le manager cherche à savoir si ça se passe bien et puis il est effectivement très présent et peut-être quelquefois trop oppressant. Et puis au fil du temps, eh bien, je m'éloigne de la collectivité ou de l'entreprise et le manager s'éloigne de moi. Je peux m'éloigner aussi de mes collègues, de ne pas connaître les opportunités d'évolution professionnelle. Bref, ça peut ne pas être non plus toujours facile en termes de responsabilité. En revanche, je ne comprends pas tout à fait non plus pourquoi l'optimisation des locaux ou l'aménagement du territoire est mis sous l'angle du développement durable, parce qu'au contraire, pour moi, c'est plutôt de la responsabilité politique éventuelle de la collectivité de dire oui, si j'ai des personnes qui relocalisent leur travail plus près de là où ils vivent, mais pourquoi pas près d'un EPCI ou d'une agence, ou ben ça peut être aussi l'occasion de tisser des liens avec d'autres partenaires de la collectivité. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est bien un objectif que s'assigne la collectivité dont elle veut assurer la responsabilité. Et à partir de là, c'est effectivement quelque chose qui change un peu de nature. Voilà les quatre points que je voulais aborder. Merci.
Alors, si on pouvait essayer de s'en tenir au principe qu'on a réussi à tenir jusque-là, d'intervention relativement compacte, parce que sinon, ça peut s'étirer. Alors, Madame Le Callennec.
Oui, merci Monsieur le Président. Moi, j'aurais deux questions. Vous avez dit tout à l'heure tous les postes ne permettent pas le télétravail. Est-ce que vous avez fait la liste de tous les postes qui ne permettent pas? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous pourriez éventuellement le généraliser et ça pourrait concerner à terme le tiers des agents du département. Donc, est-ce qu'il y a une liste précise de ce qui ne permet pas le télétravail? Et dans le document que vous nous avez distribué, il est question du profil de ceux qui ont expérimenté, agent de catégorie B, agent de catégorie A. Donc, aucun agent de catégorie C n'a pu ou n'a souhaité expérimenter, ou alors les agents de catégorie C, par définition, seraient exclus du télétravail. Et il n'y a pas les pourcentages. Quel est le pourcentage des agents de catégorie B et ceux de catégorie A sur l'expérimentation? Et est-ce que vous l'avez croisé avec les secteurs d'activité dans lesquels évoluent ces agents? Merci.
J'imagine qu'on vous dira que la restauration et nos agents des routes, ce sera plus compliqué, mais pas que. Monsieur Colombel.
Peut-être à opposer à la lettre R, la lettre E. Tout d'abord, nous sommes dans une expérimentation, et je pense que l'expérimentation a pour but de mesurer, et d'où l'évaluation. L'évaluation, c'est on parle beaucoup de voilà, on ne mesure pas, on Eh bien là, je trouve que dans ces deux mots, on a une action de la collectivité qui tente des choses, les évalue et après détermine en fonction de ces résultats eh bien les pistes à travailler et donc j'ai peut-être aussi envie de rajouter un troisième E c'est par rapport aux résultats des agents en termes de qualité de travail et le E d'épanouissement est aussi à mon avis important à prendre en compte.
Alors Madame Agnier-Robin.
Alors, sur vos interrogations et vos quatre R, Monsieur Mailleux, donc effectivement, vous exprimez bien quelque part aussi l'inquiétude qui a pu être celle des managers et puis de la direction quand on a lancé cette idée, quand j'ai lancé cette idée, qu'éventuellement dans cette collectivité, nous pourrions, pourquoi pas, nous diriger vers le télétravail et puis expérimenter cette nouvelle forme de réaliser une mission, une tâche qui nous est confiée au département d'Ille-et-Vilaine. Donc, oui, nécessairement, le télétravail, et c'est pour ça que je disais qu'il est un petit peu révolutionnaire, il interroge le lien de subordination. Il faut que le manager se mette en tête que, oui, il n'aura pas sous la main, probablement, son collaborateur. Mais on voit bien aussi qu'un manager, il n'est pas toujours à son bureau, que le manager, il peut avoir des réunions, qu'il s'absente, que parfois le collaborateur, la collaboratrice sont en situation d'autonomie et qu'on est plutôt content quand cette autonomie fonctionne et quand la confiance existe. Donc quelque part, le télétravail, oui, d'une certaine manière, il vient forcer la confiance, l'autonomie, et il n'est possible que si la confiance et l'autonomie sont là. Donc ça veut dire aussi que le télétravailleur, il n'a pas nécessairement une réponse positive à sa demande de télétravailler. En tous les cas, ça n'a pas été le cas dans l'expérimentation. Les demandes ont fait l'objet d'une évaluation par l'encadrement. Et quand l'encadrement considérait que le télétravailleur n'était pas en capacité d'être à la fois autonome ou bien que le lien de confiance n'était pas là, eh bien, ça n'a pas été possible. Donc, il y a eu quelques refus aussi sur des demandes de télétravail, en particulier réguliers. Sur la question des ressources, donc effectivement, j'ai parlé du gain, notamment en frais de carburant pour les télétravailleurs. C'est un petit peu un point mort de cette étude. On n'a pas chiffré combien les télétravailleurs avaient utilisé de ramettes de papier, combien ils avaient utilisé de consommation d'EDF ou de gaz en chauffant leur maison peut-être un peu plus que d'habitude parce que ils y travaillaient toute la journée. Donc voilà, ça effectivement, ça n'a pas été regardé, mais globalement, ce qu'en retirent les agents, c'est plutôt un niveau de satisfaction élevé et de leur point de vue à eux, ça n'a pas été un obstacle. On n'a pas eu d'obstacle du style « Ah ben non, ça me coûte trop cher de télétravailler à la maison, donc je renonce finalement au télétravail ». Non, il n'y a pas eu d'obstacle et il y a plutôt eu un effet positif de ne pas avoir à dépenser dans le carburant pour ces télétravailleurs. Et surtout, l'effet positif, c'était aussi sur le gain de temps de déplacement. Sur les rythmes, donc vous le dites bien et on le pense également, un des risques et une des vigilances, c'est bien la continuité de service. Le télétravail n'est possible que si la continuité de service est garantie. Ça, c'est vraiment les prémices, c'est le préalable à tout accord de télétravail. Et c'est pour ça aussi qu'on a limité le télétravail régulier à une journée par semaine. C'est pour ça que le télétravail dans cette expérimentation n'est pas possible le mercredi. Et c'est pour ça qu'on va avoir une extrême vigilance, si jamais le dispositif se poursuit, pour faire en sorte que ces continuités de service soient effectivement bien respectées et surtout faire en sorte aussi que dans les collectifs de travail, il y ait bien à chaque fois aussi des temps où tout le monde est là pour les réunions, pour les concertations, pour le travail en commun. sur la responsabilité. Alors, je dirais que je vous ai un petit peu répondu au travers de l'approche du manager. Effectivement, il faut de la confiance, il faut de l'autonomie. Et à cette condition, le télétravail est possible. Et sur le télétravail en apnée et les risques psychosociaux, bon, voilà, c'est une chose à laquelle on n'avait pas du tout pensé. On ne pensait pas avoir des retours de ce type-là. C'est vraiment les questionnaires qui ont amené à mettre le point et l'accent sur cette dimension. Et là encore, c'est de la prévention, c'est de l'information. C'est aussi de rappeler qu'un jour télétravaillé, c'est pas, on ne calcule pas le temps horaire, on est sur un forfait journalier. Donc après, l'agent, il peut travailler 10-12 heures s'il veut, mais c'est un forfait avec un travail à faire, des missions à réaliser. Et donc, le temps de pause, il est évidemment essentiel. Et quant à la liste précise, Madame Le Callennec, vous avez tout cela dans le rapport d'évaluation. Donc, il y a eu aussi des télétravailleurs de catégorie C. Il y en a eu 12 réguliers et 18 ponctuels. Plutôt sur des métiers administratifs, des techniciens, des gens qui ont du rédactionnel à faire, donc des travailleurs sociaux aussi qui pouvaient bénéficier du télétravail sous la forme du télétravail ponctuel. Et puis parmi les agents qui seront exclus et qui sont exclus, donc nous avons évidemment les assistants familiaux puisqu'ils sont dans un mode organisationnel qui est complètement différent. Nous avons les personnels des routes, des centres d'exploitation. Nous avons aussi parfois des personnels qui travaillent sur des outils informatiques, des écrans ou des logiciels métiers qui ne permettent pas la mobilité parce qu'ils sont trop lourds. Ça peut être les outils de PAO, etc., ou certains logiciels métiers. Et puis, nous avons les agents des collèges, évidemment, où là aussi, il n'y a pas de possibilité de télétravailler. Donc, ces agents-là, et on a bien une liste qui a été définie avec les métiers éligibles et les métiers qui ne le sont pas.
Merci pour ce rapport, et on peut imaginer que l'évolution de ce dispositif, alors qui n'est pas, loin s'en faut, le propre de notre collectivité, de très nombreuses entreprises et parfois de façon extrêmement dynamique ont expérimenté, et je crois avec des bilans que l'on pourrait qualifier de gagnant-gagnant entre employeurs et salariés, mais je crois que cette méthode à la fois pragmatique et très approfondie, analysée est la bonne, et que nous avions les éléments d'une première évaluation et avec une cotation quand même qui conduit plutôt bien sûr à se dire qu'il faut encore désormais aller plus loin en tirant les quelques mesures notamment de préconisation qui ont pu être identifiées. Donc il s'agissait simplement de prendre acte de l'état d'avancement de cette démarche, et vos contributions aux uns et aux autres ont permis d'expliciter ce constat. Alors,